le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO encourage la majorité et l'opposition à finaliser les arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre, ceci après la fin de la mission de médiation de la CENCO. Pascal Villeneuve s'en va, le représentant de l'UNICEF, arrive fin mandat après un peu plus de deux ans passés en RDC. Selon lui, son bilan s'inscrit dans la continuité de l'accord de cette agence onusienne. Pascal Villeneuve est l'invité de notre magazine. Toujours à l'UNICEF, le programme Village et École à CENI poursuit son bonhomme de chemin dans la capitale. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'inauguration de 11 bornes fontaines dans quelques quartiers défavorisés de la commune de Kimbanseki. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La crise politique et sécuritaire en RDC, caractérisée notamment par la non-signature des arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre, ainsi que par la situation qui prévaut au Kasaï central, a été parmi les sujets principaux de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Honoré Misenga a suivi pour nous cette conférence de presse.
C'est Charles-Antoine Bambara, porte-parole de la MONUSCO, qui a animé cette conférence de presse à partir de Kinshasa. Les préoccupations des journalistes présents aussi bien à Kinshasa qu'à Goma concernant la crise politique ont porté essentiellement sur l'échec des négociations entre la majorité et le rassemblement autour des arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre. Pour le porte-parole de la MONUSCO, il n'y a pas de quoi perdre espoir. Il demande au contraire aux uns et aux autres à faire preuve de calme et de retenue. Charles Bambara.
À ce moment crucial de l'histoire du pays, nous appelons une fois de plus les uns et les autres au calme, à la retenue et à donner une chance encore aux négociations, aux pourparlers, au dialogue. Cela pourra permettre d'avancer en fait sur cet accord qui est cardinal, l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a eu cet accord du 31 décembre. Nous appelons les différents acteurs politiques à se focaliser sur la mise en œuvre de cet accord de la Saint-Sylvestre, qui est jusque-là un peu le consensus qui a été trouvé. C'est vrai que les arrangements particuliers n'ont pas pu être finalisés, mais il y a urgence, et l'urgence que revêt donc la mise en œuvre de cet effectif de l'accord du 31 décembre, nous espérons, nous, au niveau de la MONUSCO et des Nations Unies, que c'est cardinal qu'on se focalise sur la finalisation de cet accord de la Saint-Sylvestre.
Le décès et la découverte des corps de deux membres du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC au Kasaï central a fait l'objet d'une prise de position ferme de la part des Nations Unies.
On se demande pourquoi des membres du groupe des experts qui avaient comme mission d'aider à porter la paix ici en RDC et à sa population ont été victimes de cette situation. Nous déplorons cela, nous condamnons cela. Le secrétaire général dit que s'il s'agit d'actes criminels, les Nations Unies feront tout leur possible pour assurer que justice soit faite. Nous pensons que l'enquête qui se poursuit sur le terrain va déterminer s'il s'agit, oui ou non, effectivement, d'actes criminels. Et s'il en est ainsi, c'est clair que les Nations Unies feront tout pour que donc justice soit faite. Le secrétaire général dit dans sa déclaration qu'il espère que les autorités congolaises mèneront une enquête complète sur cet incident. Les Nations Unies, de leur côté, mèneront également une enquête.
Par ailleurs, le porte-parole de la MONUSCO s'est fait également écho du communiqué conjoint de l'Union africaine, des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie. Un communiqué dans lequel les quatre institutions expriment leur profonde préoccupation suite à la grave situation qui prévaut actuellement dans les provinces du Kasaï, situation attestée notamment par les informations faisant état de la mort d'une quarantaine de policiers tués par des présumés miliciens sur l'axe Chikapa-Kananga. Fin de citation.
Le programme Village et École à CENI se poursuit dans la ville-province de Kinshasa. Samedi dernier, une dizaine de villages ont été certifiés à CENI dans la zone de santé de Kimbanseki. À la base, l'inauguration de 11 bornes fontaines construites avec l'appui de l'UNICEF et des ONG partenaires. Jean-Pierre Elali Koko a assisté au lancement symbolique de ces bornes fontaines. Je vous propose de suivre son reportage.
Kaken. Kaken.
Nous sommes en réalité à Dibulasemi, un des quartiers les plus défavorisés et enclavés de la commune de Kimbaseke. Il faut au moins une heure de marche à travers des avenues tortueuses et des labyrinthes pour y accéder. Les responsables des zones de santé de Kimbaseke, ceux de l'UNICEF et des ONG partenaires ont fait les déplacements. Ce samedi, c'est un grand jour pour les habitants. Leur quartier est désormais certifié village assaini. Ceci à la faveur de l'inauguration d'une borne fontaine. On en compte 10 autres dans les quartiers environnants, toutes installées par l'UNICEF en appui au gouvernement. Didier Elengue, président de l'ONG partenaire Pradec, parle du projet.
Ici, dans cette zone de santé de Kimbaseke, nous avons installé les pompes et c'est là en deux lots. Le premier lot, nous avons installé 11 pompes et nous voici maintenant en train d'installer les 12 autres. Dans ce village, la pompe est opérationnelle. Nous avons fait un forage de 35 mètres de profondeur. Les débits est de 15 mètres de colonne d'eau. Donc il y a vraiment un bon réservoir qui peut alimenter l'eau pendant plusieurs années.
Et combien de ménages peuvent en bénéficier comme ça?
Un puits est au profit des 100 à 200 ménages.
La joie se lit sur tous les visages. Le courant est une autre denrée très rare dans ces quartiers défavorisés de la capitale. Dieu seul sait quand ces villages assainiront éclairés. Mais pour l'instant, au moins une bataille, celle de l'eau potable, est gagnée.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le ministre de l'Industrie, Ilunga Lehu, a présidé le 24 mars dernier une réunion du comité de pilotage national dans le cadre d'un programme soutenu financièrement par l'Union européenne et exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, un programme qui couvre 7 pays de l'Afrique centrale. Madame Adrienne Bokabo, point focal national de ce programme en RDC, répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Madame Adrienne Bokabo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes ingénieur chimiste, directeur chef du département des normes à l'Office congolais de contrôle. Vous êtes en même temps point focal national du programme Infrastructure Qualité de l'Afrique centrale. En quoi consiste ce programme?
En fait, PICAC, comme vous venez de le dire, ça veut dire Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique centrale. C'est un programme qui fait partie de la composante 2 du PACIE, qui est l'acronyme de Programme d'appui au commerce et à l'intégration économique du 10e Fonds européen de développement. Les pays bénéficiaires de ce programme sont au nombre de 7, le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, notre pays, et Sao Tomé et Principe. Si vous remarquez bien, il s'agit d'abord des 5 pays de la CEMAC, ainsi que 2 pays qui ne sont pas de la CEMAC, mais qui sont dans la sous-région de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la RDC et Sao Tomé et Principe. Donc ce programme vise à renforcer les capacités commerciales et la compétitivité du secteur privé par un appui à ce que nous appelons l'infrastructure qualité. Je voudrais un peu m'arrêter sur l'infrastructure qualité, parce que lorsqu'on parle d'infrastructure qualité, le commun mortel pense qu'il s'agit des infrastructures genre routières, des hôpitaux, etc. Alors que l'infrastructure qualité, c'est un terme technique qui en fait résume l'ensemble qui est constitué par la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et l'accréditation.
Donc il s'agit de tous les biens produits.
Quand je parle de la compétitivité par l'appui à l'infrastructure qualité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on recherche à ce qu'il y ait une intégration économique au niveau de la sous-région. Cette intégration économique passe par le renforcement de la compétitivité d'abord des entreprises. Cela veut dire qu'ils doivent avoir des produits qui répondent aux normes, de manière à ce qu'ils puissent être exportés, acceptés dans d'autres pays. Et pour pouvoir vérifier cette conformité aux normes, c'est par les laboratoires. C'est ainsi que c'est un programme qui concerne l'appui aux laboratoires ainsi que l'appui aux entreprises. Ce ne sont pas n'importe quelles entreprises. Les secteurs prioritaires de ce programme, c'est l'agroalimentaire ainsi que le domaine de la construction.
Alors, ce programme, il est financé par qui et exécuté par quel organisme?
Le programme PICAC est financé par l'Union européenne et exécuté par l'ONUDI, qui est une agence spécialisée des Nations Unies en ce qui concerne la promotion industrielle.
Financé à quelle hauteur?
De 5 800 000 euros.
C'est donc dans le cadre de ce programme que le comité de pilotage national a tenu une réunion le 24 mars dernier à Kinshasa. Cette réunion avait quel objectif, madame?
La troisième réunion du comité de pilotage national, qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Ministre de l'Industrie, a eu lieu effectivement vendredi le 24 mars. L'essentiel de cette réunion, c'était d'abord rendre compte, donner l'évaluation en fait de l'exécution du programme jusqu'à ce jour, valider les listes des équipements des laboratoires que le programme doit mettre à la disposition des bénéficiaires.
À cette étape, quels sont ces bénéficiaires en FDC?
D'abord, c'est un programme qui est commun pour les 7 pays. Et pour tous les 7 pays, il y a 2 laboratoires qui sont appuyés et il y a 3 entreprises du domaine agroalimentaire qui sont également appuyées. Alors, pour la RDC, il y a d'abord le laboratoire agroalimentaire de l'Office congolais de contrôle et puis le laboratoire national des travaux publics de l'Office de route. Alors, s'agissant des entreprises, les 3 entreprises agroalimentaires, il y a Sivac, qui est une entreprise basée à Kimpese. Également, il y a la sucrière de Kulungungu. Et la 3e entreprise, c'est LUK, Luc, qui est basée à Lubumbashi.
Qu'est-ce qui justifie le choix de ces entreprises, mais pas d'autres?
Il y a eu des critères qui avaient été préétablis. Les entreprises devaient poser leur candidature et répondre à des critères. Alors, par rapport à ces critères, ce sont ces 2 laboratoires-là et les 3 entreprises. Je vais donner quelques petits détails. En ce qui concerne le laboratoire, il y a le laboratoire agroalimentaire de l'Office congolais de contrôle, comme je l'ai dit. Et ce laboratoire va être appuyé pour arriver à se faire accréditer, c'est-à-dire sur le plan international, se faire accréditer pour l'analyse microbiologique de l'eau, qui est un secteur très important. Tandis que le laboratoire de l'Office des routes, n'étant pas encore prêt pour aller à l'accréditation, il bénéficie d'un appui sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire les formations et les équipements. Donc pour l'OCC, il y a les équipements effectivement, plus cet accompagnement jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le stade d'accréditation pour l'analyse microbiologique de l'eau.
Le projet lui-même, il a quelle durée aujourd'hui?
Le projet a une durée de 32 mois à partir de janvier 2015.
Donc, on tend vers la fin du projet.
Tout à fait, on tend vers la fin.
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan aujourd'hui, à quelques mois de la fin du projet?
D'abord, nous pensons qu'en termes d'exécution du projet, comme on a eu à l'évaluer, beaucoup de réalisations ont été faites. Je peux vous citer déjà le fait d'avoir créé ces MACNOR, qui est donc la structure qui va s'occuper du mécanisme d'harmonisation des normes au niveau de l'Afrique centrale. Toujours dans ce cadre-là, la promotion de la qualité, il y a le prix qualité qui a été institué pour ne citer que ces cas-là. En dehors de cela, nous avons eu à faire déjà pas mal de sensibilisation à travers ce programme pour promouvoir la culture qualité où il y a eu au total jusqu'à aujourd'hui plus de 300 bénéficiaires des parties prenantes, l'infrastructure qualité, qui ont bénéficié de ces sensibilisations. Comme nous l'avons dit, le comité de pilotage national a eu à valider les équipements qui vont être mises à la disposition des laboratoires. Par exemple, en ce qui concerne l'OCC, ce sont des équipements qui sont liés au domaine concerné par l'accréditation. Il y a également donc l'Office de route qui va avoir ces équipements. Donc, c'est déjà pas mal de choses qui ont été réalisées. Donc, petit à petit, je pense que le projet est en train d'avancer.
Le projet est exécuté par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Concrètement, comment l'ONUDI exécute ce projet?
Je pourrais vous parler peut-être donc de, je dirais, la gouvernance du PICAC. Il y a d'abord un comité de politique régionale qui est commun à PICAC et à l'autre programme, je dirais, frère de PICAC, PRMN, parce que PICAC, c'est par rapport à tout ce qui concerne la qualité et PRMN, c'est également un appui, mais pas dans ce domaine-là de qualité. Donc, on a le comité de pilotage régional à ce niveau-là de l'Afrique centrale et nous avons le comité de pilotage national au niveau de chaque pays. Et dans ce comité de pilotage national, évidemment, on trouve toutes les parties prenantes à l'infrastructure qualité et puis nous avons un point focal national par pays, c'est d'ailleurs mon cas, qui est donc désigné par le ministère qui en charge le secteur la qualité. Nous avons une cellule de gestion, le PICAC, au niveau de Libreville qui s'occupe de la gestion. C'est une coordination en fait régionale. Alors, au niveau de la coordination, je dirais globale, là, ça se passe au niveau du siège de l'ONUDI à Vienne.
Madame, est-ce que vous avez un message à partager par rapport à ce programme?
Moi, je pense que c'est vrai, le programme est là, mais il revient également au gouvernement congolais de pouvoir prendre des initiatives concrètes en ce qui concerne la promotion de la qualité. Disons, le gouvernement a comme objectif d'arriver à l'émergence de notre pays. Je pense que cette émergence ne peut se faire qu'en appuyant les PME dans la production qui répond aux normes pour pouvoir conquérir dans les marchés extérieurs. Cela suppose qu'il y ait des actions concrètes en termes de soutien de l'infrastructure qualité et également la mise en place d'un cadre qui permet en tout cas à l'infrastructure qualité d'évoluer comme il le faut.
Madame Adrienne Bocabo, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Capi et du magazine des Nations Unies.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
$2,2 millions, c'est le don du gouvernement japonais au programme alimentaire mondial PAM en RDC. Cette nouvelle contribution est destinée à une assistance alimentaire aux réfugiés sud-soudanais dans le Haut-Ouélé, burundais dans le Sud-Kivu et aux personnes les plus affectées par la faim et la malnutrition dans l'ex-province du Katanga. Dans les Olomami, près de 45 000 personnes déplacées sans assistance humanitaire dans les territoires des Bukama et Malembankoulou, constaté par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA et ses partenaires humanitaires à l'issue d'une mission d'évaluation. Ces personnes ont tout perdu dans la fuite des attaques issues du conflit Louba-Pygmé dans les territoires des Manono, dans la province du Tanganyika, indique la source. Enfin, OCHA signale la flambée du choléra à Niangué dans les territoires de Fizi au sud Kivu. Selon des sources médicales, plus de 140 cas suspects de choléra, dont 13 décès, ont été enregistrés dans cette localité en l'espace de 72 heures la semaine dernière. Le foyer d'apparition de la maladie se situe dans les carrés miniers de la zone.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le bilan de mon mandat s'inscrit dans la continuité des actions de l'UNICEF en RDC, déclaration de Pascal Villeneuve, représentant de cette agence qui arrive fin mandat. Il parle des progrès réalisés par l'UNICEF, mais aussi des défis à relever. Pascal Villeneuve est l'invité de Radio Capi. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Pascal Villeneuve, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous quittez la RDC après un peu plus de 2 ans à la tête de l'UNICEF RDC. Un petit bilan de votre action.
Écoutez, c'est une action qui s'inscrit dans la continuité. Évidemment, nous sommes là depuis plus de 50 ans et nous avons accompagné ce grand et beau pays dans les moments difficiles. Mais je crois que au moment où je pars, mon souhait le plus vif, c'est que la paix et la stabilité reviennent en RDC le plus rapidement possible, de façon à ce que chaque enfant, quel que soit l'endroit où il se trouve, puisse vivre dans un environnement sécurisé, puisse aller à l'école, faire en sorte que chaque école reste un sanctuaire pour l'enfant, qu'il puisse bénéficier de soins de qualité et évidemment que à l'adolescence cet enfant puisse réaliser tout son potentiel. Des progrès ont été réalisés, mais il y en reste encore pas mal de défis, au nombre desquels je citerai 3. Le premier, c'est la malnutrition chronique. Le deuxième, c'est l'enregistrement des enfants à la naissance. Et le troisième, c'est la violence faite aux enfants.
Autre chose, le choléra s'y répand en RDC avec 5000 cas enregistrés en 2016 et dans 3000 le long du fleuve Congo. Est-ce que les efforts qui sont faits sont suffisants dans la lutte contre cette épidémie, Pascal?
Alors, le choléra est une maladie qui est endémique dans un certain nombre de parties de la RDC, en particulier à l'Est. Et le choléra, généralement, est un indicateur de développement. À partir du moment où l'on assiste à une augmentation du nombre de cas, cela veut dire que les services qui, d'ordinaire, sont destinés à assurer l'accès à l'eau potable, que ces services ne fonctionnent pas de la façon dont ils devraient fonctionner. Donc, nous souhaitons que des efforts soient faits de façon à assurer que ces services soient effectifs, évidemment, dans toutes les parties du pays, mais en particulier dans les zones où le choléra est endémique. Et à partir du moment où il y a une extension de l'épidémie, que les mesures soient prises pour détecter les cas, évidemment, au fur et à mesure, et qu'il y ait des actions visant à éviter la propagation de l'épidémie.
Oui, je reviens sur la première question. L'UNICEF est engagé, vous l'avez dit, dans plusieurs domaines, santé, eau, hygiène et assainissement, nutrition, éducation, protection de l'enfant et même des urgences. Vous êtes un médecin et spécialiste en sciences l'importance de nutrition humaine. Selon vous, dans quel domaine votre action a été déterminante pendant votre mandat?
Mon mandat, nous avons continué un certain nombre d'initiatives qui étaient en cours, en particulier dans le domaine de la survie des enfants. Je citais tout à l'heure le chiffre de 60% de réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au cours des 30 dernières années. C'est bien entendu une durée beaucoup plus longue que mon mandat, mais c'est des efforts qui n'ont été possibles qu'à travers une persévérance, l'opiniâtreté, la volonté d'un ensemble d'acteurs qui ont permis que, à l'heure actuelle, un peu plus de 80% des enfants soient vaccinés. Je citais aussi un excellent résultat dont je ne peux pas évidemment m'attribuer la gloire, c'est l'éradication de la poliomyélite. Il y a 30 ans, il suffisait de se promener dans les rues de Kinshasa pour voir beaucoup d'enfants et d'adultes d'ailleurs atteints de paralysie flasque liée à la polio. Maintenant, on en voit extrêmement peu. C'est, encore une fois, le résultat de ces efforts. Dans le domaine de l'éducation, je me réjouis de voir que des efforts réels ont été faits pour scolariser davantage d'enfants, avec aussi, maintenant, il n'y a plus de différence entre les filles et les garçons, en tout cas au moment du démarrage de l'école primaire. Mais il reste encore des défis en termes d'effectivité de la politique de gratuité et aussi en matière de qualité de l'éducation. Donc l'UNICEF s'inscrit dans cette continuité d'action.
Dans votre message, Pascal, à l'occasion du 26e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, vous avez dénoncé le manque de prise en compte des questions liées aux enfants dans les débats politiques. Quel message vous donnez aujourd'hui, à quelques jours de votre départ, aux acteurs politiques congolais pendant que vous quittez la RDC, bien entendu, par rapport à la prise en charge des enfants dans tous les domaines que nous venons de citer? Est-ce que vous avez un message particulier?
D'abord, rappelez que l'enfant, au regard de la loi congolaise, qui est alignée avec la Convention sur les droits de l'enfant, un enfant est tout individu âgé de moins de 18 ans. Cela veut dire qu'en RDC, les enfants représentent un peu plus de 50% de la population. 50% de la population, mais ils représentent tout le futur du Congo. C'est-à-dire que les décisions prises aujourd'hui qui affectent de façon positive ou négative la capacité des enfants à jouir de leurs droits va conditionner le capital humain de ce pays et donc conditionner son avenir. Vous savez, il n'y a pas d'exemple de pays dans le monde qui se soit développé dans un contexte d'insécurité et d'instabilité. Et donc mon souhait et mon appel à l'attention de la classe politique, c'est de tout faire pour que ce grand et beau pays renoue avec la paix et la stabilité, sans lesquelles tout développement est difficile, et qui permettra, au bout du compte, à chaque enfant de vivre dans un environnement sécurisé, aux parents de ne pas avoir peur d'envoyer leur enfant à l'école parce qu'ils craigneront pour sa sécurité, et de faire en sorte que l'école en particulier reste un sanctuaire inviolable permettant l'éducation de l'enfant et par là même donc déterminant l'avenir du pays.
Une dernière question, vous avez été représentant de l'UNICEF au Cameroun, au Mali et à Bangladesh. Aujourd'hui vous quittez la RDC. Quels souvenirs emportez-vous du pays et quel sera alors votre poste d'attache et peut-être le nom de votre remplaçant?
La satisfaction que l'on peut avoir dans ce métier, c'est de regarder un enfant sourire et rire. Je crois que c'est ça le plus beau souvenir que l'on peut avoir en ayant travaillé en RDC, c'est le souvenir de ces enfants de Congolais qui sont heureux. Tous ne le sont pas, mais lorsque l'on a la chance de travailler et de voir ces enfants heureux et réaliser leurs rêves, c'est ça qui nous fait vivre. Le nom de mon successeur, je pense que pour l'instant je ne peux pas le donner puisque le gouvernement doit d'abord approuver cette nomination. Nous espérons que ce sera le cas.
Votre prochain poste d'attache?
Mon prochain poste d'attache, ce sera sans doute à Dakar. Donc je ne quitte pas l'Afrique.
Pascal Villeneuve, Radio Capi, vous remercie.
Plus de 34 000 malnutris, des enfants de moins de 59 mois, des femmes enceintes et allaitantes sont prises en charge par le bureau du programme alimentaire mondial PAM à Malembankoulou, dans la province du Haut-Lomami. Cette prise en charge est consécutive à une enquête nutritionnelle menée en 2016, indique un des responsables du PAM Lubumbashi. Zou Eouri Tani est au micro de Neuï Kabena.
Dans le cadre du projet que nous mettons en œuvre avec notre partenaire Rapidé au niveau de Malimba Mkulu, spécifiquement dans la zone de santé de Mulongo, on a planifié d'atteindre plus de 34 000. Après, l'intervention se justifie par le fait que en 2016, nous avons conduit une étude nutritionnelle que nous appelons communément screening, qui a révélé qu'il y a un fort taux de malnutrition aiguë globale au niveau de cette zone de santé qui s'élève à plus de 25%. Et c'est important aussi de dire que pour le PAM, l'intervention nutritionnelle ne se base pas sur les statuts sociaux, mais plutôt sur le statut nutritionnel des personnes qui sont consultées.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Amen Zimouani, Numérica Télévision. Ma question, j'ai du mal moi à comprendre cette tuerie de policiers au Kasaï. J'essaie de prendre ça en image, j'arrive à mon colonel, comment est-ce possible que deux camions pleins de policiers armés, que tous ces policiers soient pas seulement pris, mais je ne sais pas moi, décapités. François, mon colonel, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer.
Oui, je crois que la question est pertinente. Nous sommes dans un cadre d'opération, nous autres, la MONUSCO, au niveau de Kananga. Donc, la force de la MONUSCO intervient à Kananga de façon précise. Je ne vais pas aller dans les détails par rapport à ce qui s'est passé avec la police nationale, mais je voudrais simplement que le collègue comprenne que la MONUSCO qui est là présentement à Kananga a une mission précise. Elle est chargée de renforcer sa position pour intervenir dans le cadre des enquêtes qui sont déroulées jusque-là par rapport à la disparition des collègues. Ensuite, elle est là pour renforcer les infrastructures des Nations Unies et protéger le personnel. La question que vous posez qui relève de la police nationale, je crois que je ne sais pas aller dans ces détails.
Colonel, je crois que vous avez raison. La question devait être dirigée, je crois, au porte-parole de la PNC qui est ici à Kinshasa et qui répond beaucoup à plusieurs questions. Vous pouvez lui adresser vos questions. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'au niveau des Nations Unies, au niveau des trois autres organisations internationales qui ont co-signé le 27 mars un communiqué conjoint, je peux dire qu'elles condamnent cet acte ignoble et présentent leurs condoléances aux familles des victimes. Voilà pour ce qui nous concerne. Pour le reste, je vous encouragerai à rentrer en contact donc avec la PNC qui vous donnera beaucoup plus d'informations.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Madame Muleka Mulumba Mireille, célibataire, licenciée en droit de l'Université protestante au Congo, de la promotion 2003. Actuellement, je travaille au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en tant qu'associée aux droits de l'homme depuis 2009. Je suis en fait membre de l'unité réforme et renforcement institutionnel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce que je fais particulièrement au sein de mon unité, je suis chargée d'abord du partenariat avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, mais aussi du suivi des lois en rapport avec les droits de l'homme au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et aussi, je suis en charge de la formation des agents de la PNC et des FRDC en droits de l'homme. S'il y a autre chose à dire, après l'université protestante au Congo, où j'ai eu mon diplôme de licence en droit, j'ai travaillé de 2004 à 2009 au sein d'un cabinet d'avocats, le cabinet du bâtonnier Mukendiwa Mulumba, où j'œuvrais en tant qu'avocate. Et c'est du cabinet du bâtonnier Mukendiwa Mulumba que je suis venue directement en 2009 au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, où je continue à travailler dans le domaine de droit, mais plus spécifiquement dans les droits de l'homme. Pour parler de mon temps libre, je profite en tout cas de mon temps libre pour passer un peu de temps avec la famille parce que bon, avec le travail, on n'a pas toujours le temps de passer du temps en famille. Et aussi, je passe mon temps à faire un peu de lecture comme j'aime beaucoup lire. En ce qui concerne mes préférences musicales, ben, j'aime beaucoup la musique française. J'aime la rumba congolaise, je suis congolaise donc je reconnais avant tout les mérites de la musique congolaise. Et comme sport, j'aime beaucoup faire du vélo. Je fais du vélo tous les week-ends. Bon, mes préférences culinaires, j'aime manger la cuisine congolaise, le foufou, le pondou, makayabou, donc tout ce qui est cuisine congolaise. Bon, en ce qui concerne les projets d'avenir, le fait que j'ai travaillé déjà depuis plus de 7 ans dans le domaine des droits de l'homme m'a donné un peu
envie de travailler pour la cause des personnes qui ont besoin d'être défendues, les personnes les plus défavorisées, ceux qui sont laissés pour compte. Et donc, je me vois bien dans un avenir proche travailler pour cette cause-là. Pourquoi pas, par exemple, en tant que représentant du peuple au Parlement, pour défendre la cause des personnes qui ne peuvent pas parler et parler pour eux. Ou bien, tout simplement, peut-être conseillère dans un cabinet d'un ministre ou d'un gouverneur pour apporter là où je peux, ne fût-ce qu'un petit changement, parce que nous avons tous une pierre à apporter au changement de notre pays.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Trois dates à retenir dans vos agendas. 4 avril, journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. 5 avril, journée mondiale du travail invisible. Et puis 6 avril, journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Et c'est la fin de ce magazine. Honoré Missenga Kalala l'a réalisé sous la coordination de Jean-Pierre Elali Ikoko. Héritier Sidiakala était à la technique. Moi, Suzanne Zobo-Audra, je vous l'ai présenté. Merci à vous de nous avoir suivis.